au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Édition de ce 26 mai, on parle avec Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée. On parlera ensuite avec Jean-Pierre Charreau, le maire de Sainte-Julienne. Sybille Flamand sera avec nous, chef de la communauté de Manawan. Alain Goyette, maire de la Visitation de l'île du Pas. Et nous parlerons au commentateur politique Pierre Paquette en fin d'émission. Mesdames, messieurs, bonne émission. Quelle journée extraordinaire aujourd'hui. On retrouve l'été et je vous retrouve à l'animation. C'était pas prévu, mais que voulez-vous? Notre ami Claude Fournel voulait absolument assister à la visite du roi Charles. Il va m'en vouloir. Mais c'est... Non, sérieusement. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve l'animation. Ça fait un petit bout, ça a pris beaucoup de temps. Mais écoutez, comme on dit, quand t'apprends à faire du bicycle ou de la bicyclette, ben c'est quelque chose qui se garde. Et j'espère que vous aimerez autant ça que moi de le faire. On va commencer cette émission avec une nouvelle qui nous a tous surpris en fin de journée aujourd'hui. Il s'agit de de Claude Fournel qui me regarde avec des gros yeux. Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée, qui incidemment est un homme de parole, puisqu'il avait promis à peu près, mon Dieu, une quinzaine de jours, qu'il me rappellerait pour nous parler de son avenir politique. Alors, le maire de Saint-Charles-Borromée, qui ne sera pas de la course aux élections municipales en novembre prochain, j'ai eu l'occasion de lui parler cet après-midi. Monsieur Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée, vous avez une annonce à nous faire.
Bien, c'est-à-dire que suite à la rencontre qu'on avait eue l'autre fois ensemble, j'étais pas encore décidé, puis là, lors de la fête des Patriotes, dans les 3-4 jours qu'il y a eu là, j'ai eu l'occasion de réfléchir. Et puis, j'ai décidé de pas renouveler un nouveau mandat pour les prochaines élections. Ça fait déjà... J'ai été 31 ans conseiller, ça va être la fin de mon deuxième mandat. J'ai eu une très belle carrière, je suis très heureux, j'ai été bien entouré, fait que je pense bien qu'on va le laisser aller ça à la relève.
Ce n'est pas une question de santé, là.
Non, c'est pas une question de santé, mais il reste pareil que je vais avoir 77 ans. Et puis, à 77 ans, après 39 ans à m'impliquer au sein de la ville, là, je pense que je suis rendu à un moment où je passe à d'autres choses. Je suis très heureux pareil, puis je suis bien content, puis j'aime autant partir avant qu'il y ait justement quoi que ce soit qui peut se nuire à être à temps plein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, être maire, là, c'est tous les jours, c'est 24 heures par jour, fait que je me dis non, non, au contraire, je suis en très bonne santé, puis justement, je veux continuer, puis je veux profiter. Si j'étais sûr de vivre jusqu'à 100 ans, c'est une autre affaire, mais il y a loin des statistiques qui ne sont pas nécessairement explosives là-dessus.
8 ans à la mairie, il y a quelque chose en particulier dont vous êtes le fier?
Je suis fier de tout ce qui a été accompli, moi, que ce soit quand c'était Gabi Larivière qui était maire, que ça a été 30 ans avec André Hinault. Et puis, moi, comme maire, j'ai continué le travail qui avait été fait, parce que les conseillers municipaux de Charlois ont toujours travaillé une fois élus ensemble pour essayer de faire en sorte qu'on prenne les meilleures décisions possibles, au meilleur coût possible, de façon à garder la taxation raisonnable en ayant le maximum de services, que ce soit en loisirs, que ce soit en développement urbain. Mais effectivement, je suis fier de tout ce qu'on a accompli ensemble avec les conseillers, puis il y a eu une excellente collaboration à date, puis j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de mon mandat, mais c'est sûr que Saint-Charles-Borromée vit pareil comme ailleurs, il faut développer des nouveaux logements, puis le conseil a contribué à faire en sorte qu'on en fasse. On s'est doté de services de loisirs extraordinaires, on vient d'acheter un centre aquatique, il n'y a pas tellement longtemps, on a réfrigéré la patinoire pour essayer de donner dans différents domaines, différents services. On s'associe aussi au niveau culturel. Moi, je suis fier de tout ce qui a été accompli. Puis c'est sûr qu'il y a eu, au fil des ans, des problèmes qui nous ont été soumis, mais comme je vous dis, il y a toujours eu au sein du conseil cette espèce de décision, de contribution ou de collaboration qui a fait en sorte que, malgré tout, on réussissait à aller chercher la décision la meilleure pour l'ensemble du conseil.
Vous avez connu l'ère d'André Hinault, vous avez été maire durant 8 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le travail au jour le jour à la mairie?
Et là, les responsabilités deviennent plus grandes. Et, c'est moi qu'il faut que réponde au niveau des citoyens, mais un maire bien entouré de bons conseillers, d'employés municipaux qui sont bien dédiés, que d'ailleurs on a une équipe municipale qui a toujours été grandement au service de la population. Moi, je pense que c'est ça qui a fait le. Et j'avais quand même été 31 ans conseiller où j'ai appris tous les aléas. Puis comme maire, il faut travailler à différents dossiers intermunicipaux. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai trouvé à la MRC que encore là, il y avait une atmosphère de travail, je trouve, extraordinaire avec les gens avec qui j'ai travaillé pour essayer de prendre pour la MRC les meilleures décisions possibles. Puis j'ai essayé d'apporter ma collaboration à tout ce monde-là qui... Fait que ça a été un plus parce que conseiller municipal, c'est pas nous autres qui vont à la MRC, mais travailler à la MRC, aller à la MRC, représenter la ville, ben, c'est travailler sur des dossiers supra-local. Fait que moi, j'ai trouvé ça stimulant, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est sûr que c'est plus de travail, mais je m'y attendais. André puis moi, on parlait régulièrement. Puis c'est vrai qu'il faut en savoir plus. Il faut en savoir plus dans différents domaines. On n'a pas de domaine particulier où on développe. Là, faut développer une expertise dans à peu près tous les domaines dans lesquels une ville est impliquée.
Ce que vous avez aimé le plus et ce que vous avez aimé le moins?
J'ai tout aimé.
Avez-vous un...
L'affaire que j'ai peut-être eu, qu'on a eu toute la gang au Québec, plus de difficultés, c'est sûr que la pandémie, ça a été une aventure, parce que là, on était limité dans les consultations publiques, on était limité dans les réunions, c'est-à-dire on pouvait pas faire de rassemblement et tout ça. C'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas de pandémie, parce que c'est plus facile de communiquer avec la population, de communiquer avec les gens, de faire des réunions de conseil quand il n'y a pas de... Tu sais qu'il n'y avait pas toutes les prescriptions que, dans lesquelles on était obligé de fonctionner avec la pandémie. C'est peut-être ça qui était où j'ai... C'était plus difficile, c'est pas que j'ai moins aimé, mais c'était plus difficile de composer avec réussir à trouver les bonnes solutions ou les bonnes orientations par rapport à toutes les prescriptions pour essayer de pas que l'épidémie se prépare. Ça, mettons que ces 2 ans-là a été... j'aurais aimé mieux qu'il n'y en ait pas.
En terminant, avez-vous un dauphin?
Bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relèves à Saint-Charles-Borromée. Il y en a beaucoup de... Pour le moment, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé au mois de septembre, on peut pas dire qui va se présenter ou pas. Il y a des gens qui manifestent leur intérêt. J'en ai au sein de mon conseil. Il y en a à l'extérieur aussi qui s'informent. Moi, pour le moment, tout ce que je dis, c'est que à l'intérieur du conseil de Saint-Charles, il y a une belle relève, mais il y en a aussi à l'extérieur. Il y a plein de gens impliqués dans la ville. Donc, moi, je me dis la chance, comment je dirais bien ça, c'est les prochains mois qui vont décider, dépendant des intérêts du monde puis de comment ils voient ça. Mais moi, je me dis, au sein du conseil chez nous, il y a du monde qui sont capables de prendre la relève.
Robert Bibeau, merci beaucoup. Imaginez-vous, 31 ans comme conseiller et 8 ans à la mairie, 39 ans, une carrière municipale, bon... Comme journaliste, on peut pas trop remercier un politicien, mais au nom peut-être des contribuables, il faut lever le chapeau pour 39 ans d'implication. C'est pas rien. Au retour de la pause, on parle à un autre maire, tiens. Une entrevue avec Jean-Pierre Charon, maire de Sainte-Julienne. Ça brasse dans ce coin-là. On en parle.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
CFNJ. Avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Pis Simon, ta pub Royal Lepage?
J'hésite entre parler de la protection royale que j'offre à mes clients acheteurs et vendeurs ou utiliser un verre d'oreille comme...
Simon Messier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
Non, pas ça.
Ah, 450-803-9871. Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Avant, mon jardin ressemblait à un champ de bataille. Maintenant, grâce à VEC Location, même la belle-mère trouve ça magnifique.
C'est vrai!
Rotocultage à partir de $89,99 plus taxes. Appelle avant que les mauvaises herbes gagnent. 450-912-1291 ou veclocation.com.
VEC Location, on fait tourner la terre pour toi.
Les rénovations seront bientôt terminées au nouveau Maxi Saint-Michel-des-Saints situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète lors de la grande ouverture le jeudi 5 juin. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Repentigny, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matin,
la visitation de l'île du Pape.
CFNJ, 99.1-88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
La Naudière PM, affaires municipales.
Vous savez, acheter une mini-maison, c'est souvent la solution pour les gens qui ont moins de sous, qui ont moins d'argent, les jeunes couples. Et à Sainte-Julienne, il y a un projet de règlement de zonage qui est contesté par une coalition formée d'organismes locaux. On prévoit limiter à des secteurs précis la construction de mini-maisons et on veut aussi augmenter la dimension minimale de ces maisons-là. François Morin, notre collègue, a parlé au maire Jean-Pierre Charon.
Bien, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour le développement municipal. J'ai fait une vidéo justement samedi que j'ai publiée qui dit ce que j'explique, c'est que en dehors du périmètre urbain, c'est pas permis de construire des maisons, des mini-maisons. C'est dans la loi sur l'urbanisme du gouvernement qui envoie ça au MRC. Les MRC mettent ça dans le schéma d'aménagement. Nous, il faut se confondre. On a déjà envoyé des demandes à la MRC, ça a été refusé pour différents campings. Ces campings-là sont dans la coalition, là. Et c'est pas permis. Ce qui est permis sur un terrain de camping, c'est des roulottes immobilisées ou des choses comme ça, là. Des roulottes. Et c'est pas, c'est un terrain de camping. Et ce que le gouvernement veut pas, c'est qu'il y ait de l'étalement urbain. Donc, on nous demande de travailler dans notre noyau villageois, dans le périmètre urbain.
Et il y a une autre inquiétude, selon les communications toujours qu'on a reçues, c'est que c'est les dimensions minimales des maisons là, qui semblent poser un questionnement.
Bien, à date, dans notre réglementation, on permet les maisons 30 par 30. OK. Puis, il y avait avant, dans la réglementation, des maisons sur slab de béton qu'on dit, là, il n'y a pas de sous-sol, puis il n'y a pas d'étage. Avant, il était beaucoup plus grand. Il était, mettons, à 35 par 40. On autorise maintenant à le faire à 30 par 30. On a rapetissé des superficies. OK? Moi, ce que je sais, c'est que oui, il y a des inquiétudes, mais il y a aussi des inquiétudes qu'on permette des mini-maisons un peu partout dans la municipalité. Moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire « Je vais pas avoir ça à côté de chez nous. » OK? Donc, je sais pas, moi, une personne, mettons comme exemple... que j'ai vu, qui reste au domaine McGill, a dit, je veux pas avoir ça à côté de chez nous. C'est toutes quand même des bonnes grosses maisons au domaine McGill. Ils veulent pas avoir de mini-maisons à côté de chez eux. OK? Et un terrain va coûter le même prix. Puis en dehors du périmètre urbain, les terrains, il faut que ce soit vraiment aujourd'hui, dans la nouvelle loi du gouvernement qui nous a envoyé, encore par les MRC puis tout ça, qu'il faut se mettre conforme. C'est maintenant des terrains de 5000 mètres carrés qu'on a à développé à Sainte-Julienne. Avant, on développait du 3000 mètres, maintenant, c'est du 5000 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un va s'acheter, va vouloir construire une mini-maison sur un terrain de 5000 mètres carrés qui va coûter peut-être entre 80 puis 100 quelques mille dollars, là? Moi, ce que j'ai dit en fin de semaine, puis je voulais le dire la semaine passée, mais je m'étais rétracté, mais en fin de semaine, ce que j'ai dit, c'est qu'on pourrait le faire, mettons, dans notre périmètre urbain où il y a les égouts et l'aqueduc, pour permettre que ce soit des terrains plus petits, plus abordables pour les gens qui voudraient se construire des mini-maisons. Mais il faudrait avoir un projet précis, puis ça soit bien structuré. Là, je pense que dans la coalition, la grosse inquiétude, c'est que ce qui est véhiculé par M. Brault, c'est que il y a des amis, lui, l'ancien propriétaire du camping, puis ils ont construit des mini-maisons qui ont été tolérées pendant bien des années par les anciennes administrations. Nous, quand on a été mis au courant, on a dit « wow, c'est quelque chose qui marche pas là », quand ils ont construit des mini-maisons. Il y en a qui sont construits conformes, il y en a qui ne le sont pas. Et il faut aller réglementer ça. Ben, on veut pas faire démolir ce qui est déjà bâti. C'est du droit acquis. Là. Fait que ce qui est déjà bâti, il est déjà bâti. Mais on veut plus en permettre dans les campings. On veut pas faire démolir nécessairement ce qui a été bâti avant dans différents secteurs de la municipalité qui a des mini-maisons. Mais on veut le réglementer. T'sais, on fait des mini-maisons, mais il va falloir qu'ils soient faites conformes selon le code du bâtiment.
Et dans des secteurs bien précis, il faut le rappeler. Là.
Et dans des secteurs bien précis, t'sais, comme j'ai vu sortir dans toutes ces choses-là que, de la coalition en fin de semaine, c'est que maintenant, il y a des places où ils font des mini-maisons, mini-mini dans le cours arrière de maison pour absorber, pour accueillir les parents ou les grands-parents. Ça peut se faire, mais ça peut se faire dans le noyau villageois où il y a les égouts et l'aqueduc. Si chez vous, vous avez construit une maison, puis vous avez une fosse septique pour trois chambres à coucher, vous avez trois chambres à coucher, puis que vous décidez de bâtir une mini-maison dans votre cour, puis que vos enfants prennent la maison pour vivre dedans, puis qu'ils ont besoin des trois chambres à coucher, il faut faire une autre installation septique. Ça peut pas être mis sans la même installation septique. Là, ce qu'on voulait, c'est passer le schéma d'aménagement. Puis, suite à ça, après ça, s'il y a des projets pour de mini-maisons qui voudraient venir s'installer à Sainte-Julienne, on va le regarder.
Là, évidemment, est-ce que, justement, je pense que c'est 972 personnes qui doivent se présenter pour signer le registre. Oui. C'est un règlement, là, au nombre de personnes, c'est un règlement là, pour l'ensemble du territoire.
Oui, pour l'ensemble du territoire. La logique veut que ça passe. OK? Parce qu'il faut regarder, là, si vous regardez les noms en coalition, il y en a cinq que c'est le même propriétaire, ce qui appartient tout à M. Réal Baudet. L'autre entreprise, il voulait faire un projet au lac McGill, puis on a dit, ça a été voté en réunion de conseil. Non, M. Baudet était d'accord avec ça. Puis le monsieur veut faire ça, mais on veut pas. Si on fait ça, ça va être soit ça va revirer en camping ou en. Est-ce que les gens veulent avoir ça dans leur cour aussi, non? On a beaucoup de plaintes, justement, d'un camping qui a été fait dans le noyau villageois, dans le périmètre urbain, où les feux d'artifice la fin de semaine, les feux de camp, on étouffe, monsieur le maire, faites quelque chose. Fait qu'on veut plus faire des choses comme ça, n'importe comment, n'importe où.
Alors, évidemment, selon le pire des scénarios, en tout cas, le pire de vos scénarios, c'est qu'on soit obligé d'aller en référendum ou de retirer le projet.
À ce moment-là, on prendra une décision.
C'est sûr et certain qu'on ne veut pas avoir de camping dans notre centre-ville. Je suis un peu d'accord avec M. le maire dans ce dossier-là. Mais cependant, je dois vous dire que moi, des mini-maisons, j'en ai vu qui sont construites à partir de comme, je sais pas le nom francophone, je veux dire en anglais, les containers, les fameux conteneurs, voilà. Et ils sont de très belle qualité, c'est très beau. Alors, il y aurait peut-être moyen là, de couper la chèvre et le chou dans le dossier. Les opposants au dossier ont jusqu'à 19h ce soir pour signer le registre à l'hôtel de ville du côté de Sainte-Julienne. Par ailleurs, les élections municipales, ben ça approche, ça va être intéressant. Hein? Il va y avoir des luttes extrêmement intéressantes à surveiller. Entre autres, à la ville de Lavaltrie, on aura un affrontement entre le citoyen Joël Latour et le maire actuel, Christian Goulet. Et M. Latour qui a critiqué au cours des derniers jours la façon dont les infrastructures de la ville ont été gérées dans les dernières années. Alors lui, il voudrait changer les façons de faire. Parlons de Saint-Calixte maintenant, tiens. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée en enseignement qui se fait encore sentir et la région n'y échappe pas. Journal de Montréal qui rapportait en fin de semaine que, tenez-vous bien, celle-là, elle est forte, 61% des professeurs de l'école primaire de Saint-Calixte n'ont pas leur brevet d'enseignant. 61%, ça, c'est 6 professeurs sur 10, mesdames, messieurs. L'école là-bas accueille 550 élèves et selon celle qui a été directrice durant 6 mois l'an dernier, Mélanie Grenier, l'école répond aux critères négatifs qui peuvent nuire au recrutement d'enseignants qualifiés. Bon, ce que ça veut dire, ça, c'est il y a des enseignants, imaginez-vous, sans brevet, qui quittent parce qu'ils ne sont pas capables de suivre le rythme, parce que c'est pas donné à tout le monde d'enseigner. C'est pas pour rien que les enseignants ont des cours de pédagogie. Puis aujourd'hui, ben souvent, les jeunes exclu un petit peu d'impolitesse, mais ça, je n'ose pas trop en parler. Malgré le programme d'insertion professionnelle qui a été mis en place, les enseignants quittent et encadrer un enseignant sans brevet, ça exige, selon semble-t-il, 3 fois plus de travail qu'un professeur qualifié. Il y a donc du personnel d'expérience qui a quitté à bout de souffle, puis on peut les comprendre. Écoutez, aujourd'hui, c'est pas évident de enseigner des enfants, moi je le ferai pas. Centre de services scolaires des Samars qui indique que la priorité demeure d'assurer un accompagnement de qualité et de favoriser l'insertion du personnel enseignant pour maintenir des services éducatifs qui répondent aux besoins. Bon, on a-tu le droit au régional de parler du bye-bye? Oui, on pourrait, parce que tout le monde l'écoute finalement, tout le Québec. Eh bien, il y a une nouvelle équipe pour le bye-bye 2025 qui sera incidemment, tenez-vous bien, le 50e pour la revue de fin d'année télévisée cette année. Et il y a seulement Pierre-Yves Roy Desmarais qui sera de retour parmi les comédiens. Ils seront 8 au lieu de 4 comme tête d'affiche, dont Antoine Bertrand, Anne Dorval et Stéphane Rousseau. Il y a 4 réalisateurs qui vont succéder à Simon-Olivier Fecteau, qui a occupé la fonction durant 9 ans. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est un rendez-vous que je ne manque jamais. On écoute ça, c'est un peu comme une religion à l'époque, hein? C'est la grand-messe de fin d'année de Radio-Canada. Et il y a toute une programmation. Il y a Infoman, dis-je bien. Il y a, bien sûr, le bye-bye. Et ça risque, encore une fois, d'être intéressant. Au retour, on s'en va vers les informations avec le collègue François Morin. Et au retour, on parlera avec Sibi Flamand, qui est chef de la communauté Manawan.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
D'abord, pour revenir dans la Naudière sur la 25 direction nord, c'est lent à partir du pont Payan jusqu'au pont de l'île Saint-Jean. Le pont Sophie Masson vers Terrebonne, on perd un peu de vitesse avant 10 000 îles et on demeure nombreux jusqu'à un peu dépasser la 640. La 640, c'est compliqué dans les deux directions, entre la montée du Mail, l'autoroute 40, direction ouest, même jusqu'à la 125, secteur Mascouche. On est au ralenti, 138 est vers Repentigny, ça circule bien, autant pour l'arrivée et la traversée que de l'autre côté. Et la 40 est, c'est surtout tout là, de Bourget jusqu'au pont d'étagement du CED, mais on demeure nombreux jusqu'à la 640 et dans le secteur de Repentigny aussi, d'Industriel à Valmont, direction ouest dans Repentigny. C'est là, du pont Benjamin Moreau, presque jusqu'à la 640.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus! Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Move Air et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
La CEF Lanaudière vous informe. Voici Caroline Séguin.
Depuis octobre 2023, 3 changements à la loi sur la protection du consommateur offrent une protection anti-citron dans le domaine de la vente et de la location automobile. Le premier changement donne droit au propriétaire ou locataire à long terme d'une voiture dont les problèmes continuent après plusieurs essais de réparation sous garantie de demander au tribunal de déclarer la voiture comme étant gravement défectueuse. Le deuxième changement interdit maintenant aux commerçants d'exiger des frais injustifiés à la fin d'un contrat de location comme de facturer des frais parce qu'une pièce installée pendant l'entretien normal ne répond pas à leurs critères. Enfin, le troisième changement stipule qu'au moins 90 jours avant la fin d'un contrat de location à long terme, conclu après le 5 avril 2024, le commerçant doit offrir une inspection gratuite. Pour connaître les détails d'application de la loi et ses détails, visitez la section infolettre au acflanaudière.ca.
Pour plus d'informations sur l'Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière, rendez-vous à sflanaudière.ca ou appelez au 450-756-1633.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
Les cowboys et cowgirls de la région sont invités au Rodéo Lanaudière du 30 mai au 1er juin pour une troisième édition mémorable présentée par Joliette Jeep Dodge, SWE Échafaudage et le groupe Alpha. À Sainte-Béatrix, assistez à une compétition de Gymkhana toute la fin de semaine en collaboration avec Arel. Et on termine les soirées avec Bucking Ranch Rodeo et des épreuves de Bullmania. Sur place, profitez de la cantine, du bar, de la zone famille, de l'ambiance festive, de la danse en ligne et du camping sans service. Billets disponibles sur Facebook à Rodéo Lanaudière. Encore plus de place pour vous accueillir.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croc, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Matha et Saint-Gabriel-de-Brandon.
Alors, on retrouve François Morin aux informations régionales. Bonjour, François.
Bonne fin d'après-midi, M. Arnois. Quel plaisir.
Oui. Il me semble qu'on se croise toute la journée sans vraiment se voir. Mais là, écoutez, ça sera la rentrée parlementaire demain à Ottawa.
Oui. Et on sait que le roi Charles III va prononcer le discours du trône dans lequel on va retrouver les grandes orientations du gouvernement minoritaire de Mark Carney. Alors, il y a notre analyste Mathieu Bélanger qui s'attend à un discours quand même costaud, alors que Mark Carney veut marquer le pas sur l'ancien régime libéral de Justin Trudeau. On l'écoute.
Il s'attend à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions de la part tant de son gouvernement, de ses ministres, que du Parlement. On sent qu'il veut bouger vite, faire des gros changements dans la société, qu'il croit avoir un mandat clair suite aux dernières élections pour faire ces changements-là. Donc, on s'attend à un discours du trône qui risque d'être quand même costaud, ou du moins, en tout cas, qui va indiquer des actions costaudes qui risquent d'être entreprises là, dès les prochains jours.
À Sainte-Julienne, un projet de règlement de zonage fait l'objet d'un registre. Ça brasse un peu de ce côté-là.
Oui, ça brasse un peu. Le registre, d'ailleurs, est ouvert jusqu'à 19h. Ça se passe à l'Hôtel de Ville. Il y a 972 signatures qui sont nécessaires pour forcer l'administration Charon, dis-je bien, à soit tenir un référendum ou encore retirer le projet. Et il y a une coalition d'organismes et de citoyens qui craint que le développement sur le territoire de Sainte-Julienne soit compromis. Le maire Jean-Pierre Charon a publié une vidéo en fin de semaine où il a tenté de se faire rassurant.
En dehors du périmètre urbain, c'est pas permis de construire des maisons ou des mini-maisons. C'est dans la loi sur l'urbanisme du gouvernement qui envoie ça au MRC. Les MRC mettent ça dans un schéma d'aménagement. Nous, il faut se conformer. On a déjà envoyé des demandes à la MRC. Ça a été refusé pour différents campings. Ces campings-là sont dans la coalition, là. Ce que le gouvernement veut pas, c'est qu'il y ait de l'étalement urbain. Donc, on nous demande de travailler dans notre noyau villageois.
Surplus budgétaire à Lavaltrie.
Oui, à Lavaltrie, l'exercice financier 2024 se solde par un excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre de 1,8 million. Alors, évidemment, c'est le bienvenu. Des sommes qui vont permettre de poursuivre la réalisation de divers projets, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Et on peut quand même rappeler qu'il y a plusieurs investissements qui ont été consentis l'an dernier afin de consolider les actifs de la ville et favoriser la qualité de vie des citoyens. On parle notamment de l'aménagement d'un éco-centre, le bouclage du réseau d'aqueduc et la poursuite de l'amélioration des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Et parmi les faits saillants du rapport financier 2024, la ville, on apprend que la ville a effectué un remboursement sur la dette de 2 millions. Le document complet des faits saillants du rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant peuvent être consultés en ligne dans la section budget et état financier du site Internet de la Ville.
Par ailleurs, une zone neutre, ils allaient m'expliquer c'est
oui,
quoi, a été créée à Saint-Paul.
Et c'est à l'instar de plusieurs municipalités où on fait ça. La Ville de Saint-Paul qui a aménagé une zone dite neutre qui est destinée à offrir un lieu sécuritaire pour les échanges entre les citoyens. Alors, la zone est située dans le stationnement de la bibliothèque Fernand-de-Richard, une zone neutre qui est accessible dès maintenant. Elle est aménagée de façon à être facilement repérable grâce à un marquage au sol qui est très clair. Il y a une signalisation permanente. L'espace est également équipé de caméras de surveillance surveillance et est disponible en tout temps pour permettre des rencontres sécuritaires, notamment lors de transactions effectuées via les plateformes de vente en ligne ou encore pour des échanges de garde d'enfants entre parents. Alors, il est important de noter cependant que la zone neutre n'est pas sous surveillance policière de façon continue. Alors, on invite tout le monde à être vigilant et à faire preuve de prudence lors des échanges.
C'est pas une zone là, qui fait en sorte que tu ne paies pas ton stationnement. Là.
Non, pas rien du à voir. Okay. C'est juste une zone d'échange.
Montréal qui perd des pouvoirs au sein de la CMM.
Oui, ça c'est une nouvelle qui trouve écho au sein des villes lanaudoises qui sont membres de la CMM. On parle entre autres de Repentigny, l'Assomption, Terrebonne-Mascouche. Alors, par le biais du projet de loi 104, le gouvernement Legault qui a décidé de revoir la gouvernance de la communauté métropolitaine de Montréal afin d'accorder plus de poids aux banlieues. Le projet de loi fera perdre donc à Montréal son vote prépondérant au sein de la CMM aux grandes dames de la mairesse Valérie Plante.
Et c'était une promesse électorale, ça, je pense,
qui date de 2018.
Ouais.
Alors, il y a des élections qui s'en viennent dans à peu près un an. Alors, le gouvernement se prépare.
On va cocher la to-do list.
C'est ça. Alors, la CMM, on le rappelle, regroupe quand même 82 municipalités et représente pratiquement le trois quarts de la population, en fait la moitié de la population du Québec, 4,3 millions de personnes. Et il faut aussi mentionner, en terminant, que le poids de Montréal en termes d'électeurs a diminué, passant de 51 % en 2005 à 46 % aujourd'hui.
CMM, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, c'est la commission...
Communauté métropolitaine de Montréal.
Voilà.
Pour d'autres nouvelles, évidemment, cfng.net.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM. Première Nation.
La communauté de Manawan a rendu hommage ce matin à une jeune fille décédée tragiquement il y a de cela 8 ans en inaugurant un parc qui porte son nom, le parc Sakéane. J'ai au bout du fil Sibi Flamand. Monsieur Flamand, c'est important pour vous ce geste?
Effectivement, c'est important pour moi puis aussi pour la communauté de commémorer la petite fille qui est décédée quand même tragiquement il y a quelques années. La famille était vraiment voulait vraiment partager également leur témoignage de ce qui s'était passé à ce moment-là lors de la tragédie, puis comment rassembler également la communauté.
Oui, ça s'est passé il y a 8 ans, en 2017, si ma mémoire est exacte. Pouvez-vous me rappeler un peu ce qui est arrivé?
Effectivement, c'est la jeune fille est décédée à la suite d'une noyade sur le lac juste en face de la communauté de Manawan.
Et à l'époque, le coroner avait indiqué dans son rapport que plutôt que de rentrer à la maison, la fillette était allée à la plage derrière le magasin de la communauté avec ses copines. Et il se serait donc aventuré trop loin et aurait coulé dans le lac Matabesqueca, c'est ça? Hein, c'est bien ça?
Effectivement, lors de cette journée-là, il faisait quand même très chaud. C'était une journée d'été en plein mois de septembre. Puis cette jeune fille est allée au bord du lac pour aller jouer avec ses amis au bord du lac, évidemment. Puis c'est suite à ça qu'elle s'est noyée sur le lac Matabesqueca.
La communauté de Manawan avait déploré l'absence de dessertes ambulancières à l'époque. On était d'avis que les paramédics auraient pu intervenir plus efficacement. Est-ce que la desserte ambulancière s'est améliorée depuis ce temps-là, M. Flamand?
Effectivement, depuis 2018, nous avons une ambulance, puis depuis 2022, nous avons deux ambulances qui desservent la communauté de Manawan. Donc, c'est important de souligner. Ça a été quand même plusieurs années d'échanges, de démarchage politique pour pouvoir avoir accès à ce service-là important pour la communauté.
La réaction de la famille quand on a inauguré le parc ce matin, c'était émotif, j'imagine?
Effectivement, la famille était très émotive de voir cette inauguration, cette commémoration, puis on s'est témoigné l'importance de garder leur petite fille en mémoire, puis aussi pour pouvoir surveiller ces lieux que nous avons appelés parc Sakéane.
C'est bien sûr, quand il y a une noyade, ça revient toujours la sécurité hein, au bord de l'eau. J'imagine qu'il y a de la sensibilisation qui est faite auprès de vos enfants.
Effectivement, il y a de la sensibilisation qui est faite auprès des enfants, puis aussi auprès de l'ensemble des familles de la communauté, parce qu'on sait que Manawan, il y a beaucoup d'enfants, puis les enfants ils aiment ça aller se baigner, puis on a un lac juste en avant de la communauté de Manawan, puis je pense que c'est important que nous passons vers la sécurité pour pouvoir sensibiliser les familles, les parents, puis aussi les enfants.
Est-ce qu'il y a des sauveteurs chez vous sur le bord du lac ou c'est laissé à la discrétion des parents?
C'est laissé à la discrétion des parents, mais ce qu'on demande depuis quand même quelques années, c'est qu'il y ait des personnes qualifiées pour pouvoir être présent au bord du lac pour surveiller les enfants lorsqu'ils se baignent. Il y a quand même des démarches de financement à faire là-dessus. Là. Puis oui, il y a certaines personnes qui ont été formées pour être secouristes, mais ils ont déjà d'autres emplois qui doivent travailler à l'extérieur de la communauté.
Eh bien, Sylvie Flamand, c'est un beau geste que la communauté a posé en nommant le parc Sakéane. Et on va souhaiter, bien sûr, qu'il n'arrive jamais de tragédie comme ça.
Nous le souhaitons fortement également dans notre communauté.
Un très beau geste de la communauté pour cette jeune fille qui avait perdu la vie à l'époque. Au retour de la pause, on s'en va avec Pierre Paquette, notre commentateur politique. Et imaginez-vous qu'on parle du NPD.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Avant, mon jardin ressemblait à un champ de bataille. Maintenant, grâce à VEC Location, même ma belle-mère trouve ça magnifique.
C'est vrai!
Rotocultage à partir de $89.99 plus taxes. Appelle avant que les mauvaises herbes gagnent. 450-912-1291 ou veclocation.com.
VEC Location, on fait tourner la terre pour toi.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1, 88.9, CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Il est 16h44, on retrouve Pierre Paquette, moi qui ai toujours rêvé de parler du NPD avec lui.
Ah bon, ben oui. j'ai déjà voté une fois dans ma vie NPD, c'était dans les années 80, quand Ed Burton était chef du NPD. Alors, oui. Ça, c'est arrivé une fois. Mais depuis ce temps-là, évidemment, mes allégeances ont changé un peu.
N'oubliez pas qu'on va, on va garder l'enregistrement, Pierre. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steve McKinnon, a confirmé que le NPD, le Nouveau Parti démocratique, ne se verra pas accorder le statut de parti officiel. C'est lourd de conséquences, ça, Pierre.
Ah, ben oui, oui, c'est extrêmement grave pour le NPD. Là, il faut se rappeler aussi que le Bloc avait vécu la même chose en 2011. Alors, on peut passer à travers. Et d'ailleurs, le NPD lui-même a déjà eu une période où il n'y avait pas le statut de parti officiel, parce que ça prend 12 députés. Actuellement, ils en ont 7. Alors, ça veut dire, par exemple, moins de budget, ben pas de budget du tout pour le parti. C'est tout ce qui touche la recherche, les communications. Il va falloir qu'ils trouvent une façon de financer ça différemment que les autres partis. La période de questions, ils auront droit à des questions comme députés indépendants, mais pas comme parti. Donc, ça veut dire pas des questions quotidiennes. Et puis, ça va varier d'une semaine à l'autre.
Ça revient à quel rythme, les questions? Quand vous dites les questions, ça revient pas tous les jours. Donc, ils peuvent poser deux questions par semaine, Jean?
Deux questions par semaine, c'est ça. Ça va dépendre de la bonne volonté du président de la Chambre, qui est un libéral. Alors, malgré que je suis convaincu qu'ils vont quand même faire preuve d'un peu d'empathie vis-à-vis de la NPD. Et aussi, les places au comité, il n'est pas garanti que les députés du NPD aient des sièges dans les différents comités. Ça va se négocier de façon très serrée, parce que je pense que personne ne va vouloir leur faire de cadeaux. Bon, malgré que le gouvernement, M. Carney et les libéraux auront probablement besoin du NPD pour être en mesure d'aller chercher une majorité des votes, parce que, comme on le sait, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Il lui manque 3 ou 4 sièges, 3 ou 4 votes. Donc, il va aller les chercher probablement du côté du NPD.
Qui fait partie des comités? C'est les WIP ou c'est...
C'est le comité, le comité des WIP, là, je me rappelle plus exactement le nom. C'est eux qui décident aussi le type de comité, tout ça. Probablement qu'il va y avoir une petite période de purgatoire. C'est ce qui est arrivé au Bloc. C'est-à-dire que pendant quelques mois, les députés allaient siéger parmi les observateurs lors des travaux des comités. Mais à un moment donné, il y a eu une certaine ouverture de la part des différents partis. Il est possible qu'il puisse y avoir aussi de l'ouverture, mais ça prend l'accord de tous les partis. Ça veut dire aussi bien les libéraux, les conservateurs et le Bloc québécois. Alors, je suis pas convaincu là que ça va se faire très facilement. Mais il y a des moyens de survivre à ça. Bon, si je prends l'exemple du Bloc, comme il n'y avait plus de budget pour la recherche et les communications, chaque député a dû mettre dans la cagnotte une partie de son budget de député pour s'assurer d'avoir une certaine infrastructure en termes de recherche et de communication. Alors, je pense que c'est la même chose que le NPD va faire, là. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Bloc était 4. Alors, au moins, le NPD sont 7. Donc, ils auront à diviser la facture entre 7 personnes.
Vous savez, c'est cruel. Il y a une cruauté dans la politique. Moi, je pense toujours au personnel. Je pense toujours aux gens là qui viennent de perdre leur emploi. C'est déchirant, puis ça revient à tous les 4 ans.
Non, je peux vous dire que... Puis parfois, il y a des surprises. Justement, un des problèmes de M. Carney actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnel qui était sûr que les libéraux allaient perdre. Donc, se sont trouvés des emplois ailleurs. Et ils sont plus disponibles pour le Parti libéral à court terme. Alors là, on cherche du monde parce que, encore une fois, ces gens-là, voyant ce qui s'en venait là au mois de décembre, rappelons-nous, avec Justin Trudeau, les dernières semaines ont été particulièrement pénibles, ils se sont trouvés des jobs ailleurs et ils sont pas disponibles à court terme pour le Bloc. Il y a aussi une expertise. Là. Dans le cas du Bloc, par exemple, les gens qui ont été gardés à la recherche aux communications là, avec ce pote que les députés avaient fait, c'était quand même des gens d'expérience. On les aurait perdus et ils sont pour la plupart encore là avec M. Blanchet. Alors donc ça va être une épreuve assez éprouvante pour le NPD. Mais je suis sûr qu'ils vont passer à travers.
Les gens de talent, les recherchistes comme ça, ils peuvent se trouver du travail dans d'autres partis habituellement, non?
D'autres partis, même dans des boîtes de communication, dans des ministères. Écoutez, c'est des gens qui ont énormément, pour la plupart, là, énormément de talent et ils sont très débrouillards parce que, contrairement à bien d'autres structures, un parti politique, c'est quand même une structure très légère. On peut pas avoir quand même un staff mirobolant, là, et donc ils doivent être capables de trouver des solutions à des problèmes qui probablement dans d'autres institutions prendraient quelques semaines, ils doivent le faire en quelques jours, sinon quelques heures. Alors ça va être important pour le NPD de garder le cœur de leur personnel.
Pensez-vous que le NPD va s'en remettre?
Ah oui, il va s'en remettre. Je pense que le plus dur pour le NPD, c'est pas tellement ça, c'est de trouver un chef qui va être capable de leur de les ramener vers une voie pas triomphale, mais une voie plus acceptable. Parce que je pense que tout le monde le reconnaît. Je voyais un commentaire dans un des quotidiens sur M. Singh. Il a pris la députation du NPD à 40 et plus, et il la laisse à 7. Alors, c'est pas, ça n'a pas été. Et à chaque élection, il a perdu une partie de sa députation. Alors, c'est pas un chef qui va rester, je pense, dans les annales de l'histoire du NPD comme un chef très important.
Pierre Paquette, c'est toujours éclairant de vous parler. Merci beaucoup.
Merci. On se reparle mercredi.
Merci, Pierre Paquette. Au retour dans quelques instants.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Eh bien oui, un projet de parc régional est en gestation du côté de la Visitation de l'île du Pas. On en discute en fait depuis quelques années. Et lors d'un entretien que j'ai eu avec le maire Alain Goyette, le maire de la Visitation de l'île du Pas, j'ai appris que la MRC va s'impliquer dans le dossier tout en confiant la gestion à ceux qui s'en occupent déjà, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, on les appelle la Serbie. Mais comme ça sera chapeauté par la MRC, ben, il y aura peut-être un peu plus de sous pour leur permettre d'avoir des activités. Alors, on écoute cette entrevue.
À l'historique du projet remonte à 2021, alors que j'ai été élu maire de la municipalité après plusieurs années comme conseiller municipal. Dès lors, j'ai eu des approches avec la Société de conservation et d'interprétation de Berthier et ses îles, la Serbie, et de recherche aussi, j'ai oublié l'air, et qui nous ont approchés avec différentes problématiques concernant la pérennité de la survie de l'OBNL parce qu'ils ont cessé l'exploitation agricole sur une partie importante de leur terre qui leur apportait un revenu important. Tout ça pour s'en aller plus vers un volet conservation et de respect là, de l'environnement.
Ah oui, il y avait un volet agricole. Il y avait des gens qui exploitaient...
Effectivement.
Ils louaient ça à des agriculteurs, quoi.
Exactement. Okay. Sur toute la superficie de la Serbie, il y a 170 hectares qui étaient en location commerciale qui leur apportaient le revenu de fonctionnement essentiel, le plus important.
Et pourquoi ils ont arrêté ça?
Dans une volonté, suite à une demande aussi de la Fondation québécoise La Fonde, qui est un peu le parrain en arrière de la Serbie, ils ont des relations avec eux autres. Ils nous ont demandé de s'en aller plus vers de la conservation, donc de cesser l'exploitation agricole intensive pour s'en aller vers une exploitation agricole qui est beaucoup plus environnementale, sans l'utilisation de fertilisants et de pesticides. Donc, la Serbie s'est retournée vers des cultures de foin et en plus, ils sont donné une contrainte supplémentaire pour favoriser les oiseaux de prairie, les oiseaux qui se reproduisent dans des prairies. Ben, ils ont poussé les récoltes un peu plus tard en juillet. Donc, ça l'a amené les revenus de cette nouvelle orientation-là en foin tardif a amené une baisse très significative de leurs revenus.
De leur budget, oui.
Exactement.
Et là, cet endroit-là est reconnu quand même comme un endroit nature. Il y a des sentiers pédestres, si ma mémoire est exacte.
Exactement. Sur le sentier de la Serbie, il y a 2,2 kilomètres de sentier vraiment en rocher qui a été fait au début de tout, qui s'en appelle le sentier des Trois Tours. Et en plus de ça, il y a 9,3 kilomètres de sentier de ski de fond l'hiver et 9,7 kilomètres de sentier pédestre l'été. 245 espèces d'oiseaux recensées et puis une trentaine d'espèces de poissons.
Beaucoup d'observateurs d'oiseaux, hein? Je pense que l'endroit est prisé pour ça, là.
Beaucoup d'ornithologues. Mmh. À ce temps-ci, on en voit encore beaucoup avec les télescopes, les appareils photo avec des télescopes quand même à très longue portée, des lentilles à très longue portée. Il y a et beaucoup de personnes qui prennent des photos, qui prennent des relevés de ce qu'ils voient ou de ce qu'elle voit, l'affiche ou l'envoie sur Internet, et souvent on peut, avec des simples recherches, le voir la quantité impressionnante de personnes qui viennent d'un peu partout observer les oiseaux.
Donc vous, monsieur le maire, là, vous avez décidé un jour, ce serait peut-être le fun que ça devienne un parc régional.
Ben, faut que je donne le crédit à personne à qui ça revient. Après mon élection comme maire, j'ai rencontré notre députée, Mme Caroline Proulx. On a discuté du sujet de la Serbie et elle m'a porté à l'attention que peut-être que d'en faire un parc régional serait l'outil le plus adapté à la situation.
Ça donne quoi avoir un parc régional?
Bon, le parc régional peut se faire de deux façons. C'est une compétence exclusive des MRC. Ils peuvent être soit entièrement propriétaires du territoire ou par des ententes.
Avec un organisme.
Un OBNL. Le modèle qui est préconisé ici, ça serait avec, c'est toujours en gardant la Serbie comme OBNL. Et nous, on est une couche comme entre les deux qui offrirait, je dirais, une stabilité puis une permanence et surtout un moyen d'arbitrage entre les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux, de la conservation et de recherche et d'interprétation.
Est-ce qu'il y a un avantage de reconnaissance gouvernementale devenant un parc régional? Est-ce qu'on peut avoir plus de sous, par exemple?
Oui. Ça donne accès à plus de ressources financières exactement. Mais ça donne aussi accès à des ressources techniques et un personnel plus près. Comme à la MRC, il y a du personnel permanent. La Serbie, c'est des valeureux personnes qui donnent le bénévolement de leur temps. Il y a pas de personne vraiment à temps plein. C'est du monde qui porte ça à bout de bras.
Quelle étape il reste à franchir avant que ça devienne un parc régional? Une demande, il faut qu'elle soit faite, il faut qu'elle s'achemine.
Actuellement, ce que la MRC de Dautray a pris comme résolution unanimement en mai dernier, à notre dernière séance de mai, c'est de former un comité d'une partie avec des représentants de la MRC. La Serbie a accepté notre offre, donc vont nommer des personnes de leur côté. Et il y a des rencontres qui vont suivre pour en arriver à une entente entre les deux qui va essentiellement couvrir l'île du Mitan et l'île au Castor, la partie dont la Serbie en est propriétaire.
Quand est-ce qu'on va avoir le parc régional?
J'aimerais dire d'ici la fin de l'année.
Ah oui,
c'est pas un processus qui est tellement long. C'est vraiment que les deux entités s'entendent et la MRC par la suite va faire un règlement qui va entrer en fonction à partir du moment où ce que l'entente va être d'utilisation du territoire de la Serbie va entrer en vigueur. Et la structure du parc régional va permettre aussi à la MRC et aux municipalités locales d'adapter le schéma d'aménagement et nos plans d'urbanisme avec lesquels faut que les usages qui vont avoir lieu sur le terrain ou sur le parc en question soient conformes avec ces plans-là.
Comme dirait la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux, c'est ça? Ça fait rire les oiseaux. Et Justin Lapierre, qui adore les oiseaux, lui, incidemment. Alors, c'est un beau projet pour les observateurs d'oiseaux et les gens qui aiment la randonnée pédestre. Je vous parle de Maurice Richard, maintenant, en terminant, qui a rejoint aujourd'hui le cercle fermé des personnages historiques du Québec. Il y a le ministre de la Culture et des Communications qui en a fait l'annonce au Centre Bell dimanche, hier. Et le gouvernement québécois a décerné ce titre au Rocket à quelques jours du 25e anniversaire de son décès, puisqu'on ne peut pas nommer un personnage historique avant la 25e année de son décès. On va écouter le ministre Lacombe et également le fils de Maurice Richard. Maurice Richard, fils, dans ce court extrait, tiens.
Mon père a vraiment cherché la notoriété ou la célébrité. Il faisait un sport qu'il aimait. Il a toujours aimé ses concitoyens. Il a toujours joué à Montréal. Il était fier d'être Québécois. Et puis, je pense que ça lui suffisait amplement.
Ce joueur de hockey, Maurice Richard, n'était pas seulement un athlète exceptionnel. Je parlais tantôt de l'importance qu'il a eue pour l'histoire du Québec. Il a aussi incarné la fierté et les aspirations des Québécois et des Québécoises francophones.
Et le seul autre sportif qui a été personnage historique célèbre, c'est Louis Cyr, imaginez-vous. Antonio Barrette l'a été, La Bolduc, Robert Bourassa, Samuel de Champlain, Maurice Duplessis, Jeanne Mance. Il y a même des purs gens que je connais pas. François de Beauharnais de la Bouèche et Michel Bégon de la Picardière, Jean Bochard de Champigny et Charles de la Bouèche. Alors, vous me demandez c'est qui? Je n'en sais rien. Merci beaucoup à Robert Bibeau, Jean-Pierre Charon, à Sibi Flamand, Alain Goyette, Pierre Paquette. Un gros merci à François Morin et un gros merci également à Claude Fournel et Nicolas Bellemare pour leur qualité technique et, bien sûr, de soutien moral. À demain, tout le monde.